Très heureux d'avoir pu recaler avec vous ce soir. Du coup, vous finissez le cycle 2, hein, pour les éditeurs, le cycle 2 étant les influences des religions dans l'histoire, avec le sujet de religion et science, religion, science et technique, des dynamiques entre ces trois champs de la vie humaine. Et donc, vous êtes intervenu chez nous l'année dernière déjà sur ce sujet-là. Donc, très heureux de vous accueillir à nouveau. Donc, très rapidement, hein, vous êtes chargé des questions éthiques au CNES, au Centre national d'études spatiales, avec un parcours riche, n'est-ce pas, puisqu'un ingénieur agronome d'origine, un doctorat en histoire des sciences, un doctorat en théologie. Vous êtes passionné, vous intéressez aux relations entre sciences, culture et religion. Vraiment, on est en plein dans le cœur du sujet de ce soir, avec deux thèmes en particulier, donc le vivant et son évolution. Et l'espace et sa conquête, ce qui tombe bien quand on travaille au CNES quand même.
Ouais.
Voilà. Quelques ouvrages sont cités là, mais il y en a bien d'autres. Vous intéressez beaucoup à ces derniers temps, enfin non, pas ces derniers temps, régulièrement, Théilhard de Chardin,
oui.
Et Darwin,
oui.
Aussi.
Bah oui. C'est pas mal quand même, c'est des personnages intéressants
c'est
à fréquenter.
C'est des gens qui sont assez intéressants à fréquenter. Mmh. Avec un ouvrage notamment que je recommande, ça va être Dieu ne joue pas au dé. Voilà. Parce que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir, n'est-ce pas ? J'ai eu le courage de le lire. Non, mais en plus, c'est un petit livre très, très digeste, très agréable. Je vous recommande très chaudement et passionnant. Voilà. Donc, Jacques, à vous la parole.
Merci. Et comme vous voyez, je m'intéresse en plus aux extraterrestres. L'année dernière, quand vous m'avez très gentiment invité à une première intervention, c'est vrai que l'idée d'aborder le... Donc dans ce cycle 2, ces relations entre monde religieux et science à travers le cas des extraterrestres étaient sans doute un peu originales. Il le demeure, je pense. Hein. C'est peut-être pas nécessairement à quoi on pense immédiatement. Mais pour autant, ça nous a semblé cette année encore une porte possible, ce n'est qu'une porte. Et il y en a bien d'autres et bien d'autres exemples. Il se trouve que c'est une question qui m'est régulièrement posée, de fait. Quand j'interviens plutôt avec ma casquette spatiale, parce que mon intérêt pour l'espace vient du fait que j'ai commencé à travailler pour le CNES et non pas l'inverse. J'étais loin des étoiles. Et très souvent, on finit par me dire « Mais au fait, vous venez nous parler d'éthique spatiale, vous nous avez même peut-être parlé de vie extraterrestre, mais... Et la théologie dans tout ça. Parce qu'il suffit de regarder sur... ou d'avoir une présentation complète, ou d'aller regarder sur quelques pages d'Internet pour voir que je m'intéresse aussi à la question de Dieu. Donc la conjonction, elle existe bel et bien dans l'esprit de nos contemporains, ne serait-ce que par cette expérience-là. Donc voilà, quelques éléments de réflexion personnelle, d'introduction... Évidemment, enfin, je ne sais pas du tout quelle est la je ne me souviens plus trop le mode de fonctionnement, mais...
C'est à peu près une heure d'intervention.
Oui, non, mais si vraiment il y a des choses qui sont ou déplacées, ou que vous avez entendues 15 fois, ou quoi, je pense que vous êtes suffisamment grand, n'est-ce pas, pour avoir fait aussi d'autres instituts, d'autres études, pour intervenir. Ça fait partie, je crois, de la culture. Et j'ai oublié de m'excuser pour la dernière fois, mais c'était le ciel qui n'avait pas voulu que je sois là ce soir-là. Mais il a quand même voulu que je sois là ce soir. Donc c'est déjà pas mal, ça aurait pu être plus embêtant. Ils sont déjà là. Donc ça, c'est simplement pour nous rappeler que la question extraterrestre appartient bel et bien à nos cultures. On le verra tout à l'heure dans l'aspect un peu historique. Mais aussi à notre culture contemporaine. Il y a régulièrement des choses dans ce genre-là. Alors, je ne suis pas certain que ce soit la dernière en date, mais parce qu'il y a déjà presque un an, mais des annonces dans nos médias d'un nouvel sonde, d'un nouveau télescope, d'une nouvelle mission qui est chargée d'explorer notre système solaire, c'est déjà pas mal, et d'y trouver éventuellement des mondes, de la vie extraterrestre, ça c'est quand c'est martien, et puis quand on a un télescope comme celui-ci, eh bien on peut aller... regarder plus loin que notre système solaire et tâcher de détecter donc ce qu'on appelle des mondes extraterrestres ou tout au moins des exoplanètes. Cette question des exoplanètes, alors j'étais vérifié hier parce que j'étais pas au courant du dernier chiffre, officielle. Depuis 1995, donc on a fêté les 25 ans l'année dernière, eh bien on a découvert donc 4023 exoplanètes, enfin en tout cas ont été confirmées, donc ça signifie des planètes qui tournent autour d'un autre soleil que le nôtre. Quand je dis 25 ans, bon, c'est à la fois donc peu et beaucoup, en sachant que quand même jusqu'en 1995, nous n'avions pas la preuve scientifique de l'existence de planètes autour des étoiles des autres soleils, hein, des autres étoiles qui appartiennent à notre galaxie. Au-delà, ça devient encore plus compliqué. Donc ça n'est que 26 ans maintenant que l'on a cette confirmation scientifique que des planètes tournent autour des autres étoiles. Et qui dit planète qui tourne autour d'autres étoiles, bien évidemment, relance la question d'une possible vie sur ces planètes, sur ces exoplanètes. Pour autant, on n'en a pas trouvé. Mais en tout cas, évidemment, chaque exoplanète confirmée ou découverte augmente la chance d'en trouver. Ça dépend évidemment quel type de planète c'est, mais comme nos amis scientifiques, quand ils prennent de la bouteille, ils prennent aussi, ont des moyens d'investigation de plus en plus perfectionnés. Ce qui était des grosses planètes gazeuses il y a encore quelques années, donc sur lesquelles il y a très très peu de chances de trouver de la vie, en tout cas telle que nous la connaissons, eh bien aujourd'hui, ils repèrent des planètes de plus en plus petites et qui se rapprochent de la taille de notre Terre, donc de taille de planètes qui pourraient être des planètes sœurs, ou en tout cas sur lesquelles des conditions de vie seraient envisageables. D'où, dans ces populations de planètes, et ben des cartographies. Vous voyez, avant, on était plutôt en haut à droite, là, les grandes planètes froides, gazeuses, et puis petit à petit, on arrive sur des planètes rocheuses. Donc, bon, on approche de ce qui pourrait être des planètes habitables. Du point de vue scientifique, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais c'est quand même toujours intéressant de dire que ce qui peut nous bousculer, et de fait, ça peut nous bousculer dans nos convictions, y compris nos convictions religieuses, mais a aussi bousculé énormément d'abord la communauté scientifique. Parce que ben, les scientifiques sont comme tout le monde, ils élaborent des théories dans lesquelles ils finissent par se complaire et puis se dire finalement tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. En attendant la prochaine révolution, à la fois que l'on est en train, je parle, nous les scientifiques, en train de préparer, mais qu'en même temps on peut aussi craindre, eh bien. Voilà, on se complaît dans des certitudes. Alors, vous savez ça comme moi, je n'ai pas repéré des scientifiques, mais il y a peut-être des scientifiques qui se cachent parmi vous. Donc ce n'est pas du tout une critique, c'est une observation quasi quotidienne. Et vous voyez par exemple cette petite image toute bête, hein, un double soleil, ben, il y a effectivement des systèmes beaucoup plus compliqués avec deux étoiles, puis des planètes qui sont là où elles ne devraient pas être, elles ne devraient pas être en fonction de ce qu'on pensait être quasiment des règles établies. Donc, ce qui peut nous surprendre, parfois nous bousculer dans nos convictions philosophiques ou religieuses, a déjà surpris pas mal hein, les scientifiques. Alors, ça, c'est la question plutôt astronomique, évidemment. Alors, se pose la question de la vie. Alors, régulièrement, on a aussi dans nos médias des trucs comme ça. Hein, ça, c'était là où il y a aussi à peu près un an, on aurait découvert un squelette d'extraterrestre. Bon, il s'est trouvé que c'était simplement des déformations que donc on n'avait toujours pas trouvées. Mais c'est vrai que cette recherche de la vie extraterrestre, donc les exoplanètes c'est sympathique, mais c'est un peu, ce ne sont que des planètes. Ce qu'on voudrait c'est trouver de la vie ailleurs. En tout cas c'est cette question-là qui se pose. Là encore, c'est des tonnes de littérature que vous connaissez sans doute aussi bien que moi, tout cet imaginaire humain qui a été peuplé, qui est toujours peuplé de ces mondes différents du nôtre, de ces extraterrestres plus ou moins violents. Alien, évidemment, c'est la partie noire. E.T., c'est la partie sympathique. Nous nous interrogeons, évidemment, et au fond, c'est le fondement de mon propos de ce soir. Nous interrogeons sans cesse sur la possibilité d'autres que nous, et nous nous interrogeons sur leur identité, leur caractère, leur morale, on pourrait dire, parfois même leur religion. Alors, tout à l'heure, en vous quittant, la personne que je dis, bah, tiens, je vais faire une conférence sur les... plutôt en vous rejoignant, la personne que je quittais, je lui dis, bah, tiens, je vais faire une conférence sur les Martiens. Alors évidemment, ah bon, les Martiens, ils existent ou pas? Je dis, oui, moi, je n'ai rencontré deux, enfin deux reprises, simplement pour vous inviter peut-être un jour à faire l'expérience que j'ai faite, alors à gauche, dans un documentaire fiction, qui est intéressant parce que le réalisateur s'est dit, au fond, je vais faire un documentaire sur la vie extraterrestre et sur la possibilité d'une visite, d'où son nom, d'extraterrestres sur Terre. Je ne vais pas mettre en scène les extraterrestres puisqu'on ne les connaît pas. En revanche, ce qu'on connaît, c'est les gens qui seraient en charge d'accueillir un ambassadeur extraterrestre. Donc, il a fait, d'où le documentaire fiction. Et c'est assez intéressant de voir comment les terriens aujourd'hui sont prêts ou pas prêts à accueillir un visiteur. Donc, par exemple, ceux auxquels on pense tout de suite en termes de gens qui pourraient les recevoir, les Nations Unies ne sont pas vraiment prêts à ça. Il y a un bureau des affaires spatiales, si vous allez les rencontrer en leur disant « Imaginez que vous avez en face de vous un ambassadeur extraterrestre, qu'est-ce que vous lui diriez ?» Alors là, blanc total. On va vous expliquer comment le bureau des affaires spatiales fonctionne, c'est à peu près ça, donc on vous fait un topo, une visite, comme vous en faites, mais ils ne savent pas se mettre en scène. Alors que des juristes, je crois qu'il y a des juristes parmi vous, savent très bien accueillir de manière extrêmement aimable et mondaine l'ambassadeur. Les porte-paroles de gouvernement réfléchissent tout de suite à la manière dont on devrait gérer ce qui serait quand même une crise, qu'ils soient tout à fait aimables ou au contraire belliqueux. Les militaires sont mis en scène, etc. Et moi, je jouais le philosophe théologien et j'ai passé 3 heures en face d'un extraterrestre. Le jeu est assez intéressant. Bon, de manière beaucoup plus drôlatique, j'ai aussi rencontré un extraterrestre, que vous voyez la tête, au musée du Bourget. Ça s'est mal terminé, c'est lui qui a eu le dessus dans la lutte qui nous oppose, comme quoi il faut être prudent. Dans les pubs, alors ça c'est des clins d'œil, parce que je regarde ça, vous voyez, que montriez-vous en premier un extraterrestre, c'est un pub de la Lufthansa, et lors du dernier Bourget, ben, voilà, la pub d'Europcar était tout à fait bien, puisque donc c'est les extraterrestres qui arrivaient au Bourget. Devant le CNES, il y a 2 ans, là c'est moins rigolo, j'allais dire, quelqu'un, alors je sais pas, à moins que ça soit un poisson d'avril, mais c'était en plein été, eh bien on a eu un manifestant qui s'est posé avec un panneau solidarité avec les victimes des extraterrestres, et il n'y a pas si longtemps, puisque là, même la crise des gilets jaunes, je me demandais, les gilets jaunes, les extraterrestres, eh bien ils en trouvent même des liens, et ils sont même là, les extraterrestres. Donc ils sont vraiment partout. Apparemment, la militante ne parlait pas des extraterrestres dont je vous parle ce soir, mais des terrestres qui ont un peu oublié d'habiter cette planète. Vous connaissez, là, je fais ça rapidement, hein, mais l'origine, en fait, de l'intérêt actuel hein, pour les extraterrestres et les ovnis, c'est 1947, ce pilote d'Amérique du Nord qui a vu des objets qui volaient comme des soucoupes. Parce qu'elle s'est déplacée dans l'air de manière un peu, non pas erratique, mais comme une soucoupe se déplace dans l'eau, et d'où le terme de soucoupe volante. Pour en arriver à mon sujet, c'est juste un avis du maire de Châteauneuf-du-Pape, le lien étant avec le pape, qui interdit le survol du territoire communal par les soucoupes volantes, parce que ben, c'est plutôt gênant qu'autre chose. Donc même au Vatican, on se pose des questions sur la vie extraterrestre. Encore un journal, alors La Croix, bien sûr, mais il n'y a pas que La Croix, hein, qui, à l'occasion, va interroger le directeur de l'Observatoire astronomique du Vatican. Vous savez qu'il y a un observatoire depuis très longtemps, avant même Galilée. Et évidemment, quand il est question de vie extraterrestre, on va voir le directeur. Alors, le directeur de l'époque, au moment, donc en 2015, le père Funès, qui explique que, il ne croit pas à une rencontre du troisième type. Mais si c'était le cas, ça n'entrerait pas en conflit avec la foi chrétienne. Ça, c'est un peu la problématique de mon intervention. Le directeur actuel du même observatoire, jésuite lui aussi, ici on peut rendre hommage au travail scientifique des jésuites, eh bien, lui aussi s'interroge sur la nécessité ou pas de baptiser un extraterrestre. C'est pour vous dire que le sujet extraterrestre et religion est plus que dans l'air du temps. Même les jésuites s'y intéressent, ça peut être que sérieux. Alors, On a posé la question au pape régulièrement sur les questions de la... Est-ce qu'on se prépare à une rencontre avec les extraterrestres ? Dans cet article, eh bien, il y avait à la fois un propos de Benoît XVI. Là, le pape François explique très clairement que l'Église est ouverte à tout le monde, y compris aux extraterrestres. Et le Dalai Lama n'est pas en... également intervenu là-dessus. Et c'est intéressant de les rapprocher, parce que... Bon, j'y reparlerai, j'évoquerai tout à l'heure. Mais il est évident que derrière ça, il y a une question de conception de la réalité et de conception du monde et de la place de l'homme au sein de cette réalité. Entre une religion catholique, donc chrétienne, très anthropocentrée, dans laquelle c'est l'être humain qui reste essentiel, même aujourd'hui, après les leçons des écologistes et le fait que l'Église ou les Églises se mettent un peu au vert, malgré tout, le premier souci, c'est l'être humain. Donc un anthropocentrisme qui n'est pas nécessairement un géocentrisme. On a quand même dépassé Galilée. Mais tout de même, la présence d'autres êtres conscients, créatures de Dieu, peut gêner les chrétiens, un certain nombre de croyants. Un de mes amis, quand je lui ai parlé de cette question-là, m'a dit « Mais si vous m'affirmiez l'existence extraterrestre, ma foi serait vraiment ébranlée. » Je prends ça au sérieux, même si je considère qu'il y a peut-être un peu de théologie à faire, mais quand même. Le Dalai Lama, dans sa conception de l'univers, a sans doute beaucoup plus de facilité à admettre, au contraire, je dirais même presque qu'il les attend. C'est des questions, évidemment, de théologie, de philosophie, de cosmologie. Il leur serrerait la main. Bon, pas François aussi, sans doute. Enfin, s'ils ont une main, c'est pas la question. Derrière ça, il y a des gens qui ont des propos beaucoup plus étranges. Alors, on rentre dans l'ordre du complot, parce que ça fait toujours plaisir. J'ai trouvé uniquement la prise d'écran, mais des vidéos où un ecclésiastique, donc fond de Saint-Pierre, le doigt levé, est en train de vous expliquer qu'il y a évidemment, le Vatican possède des secrets en termes d'extraterrestres et que peut-être qu'un jour ils les dévoileront. Il faudra peut-être attendre, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de secrets au Vatican qu'au CNES en termes d'extraterrestres. Quand on rentre dans un côté un peu délirant, vous avez par exemple ici que c'est le soir d'une élection papale, puisqu'il y a une fumée blanche qui sort de la cheminée du Vatican. Il y avait un ovni qui surveillait l'élection, ce qui montre qu'il n'y a pas que Trump qui a des élections qui sont truquées, il y aurait aussi le pape, mais ce ne seraient pas les Russes, ce seraient les extraterrestres. Évidemment, ça nous fait sourire, et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais la difficulté, c'est que quand on est... Il y a des gens que ça ne fait absolument pas sourire. Et je vous parlais de cet ami qui est, un croyant convaincu et qui souffre vraiment à l'idée qu'il puisse y avoir une vie extraterrestre. Et cette question-là, qui nous semble aujourd'hui contemporaine, parce que je vous ai montré des images très contemporaines et plutôt qui portent à rire, en particulier les dernières, où on pense beaucoup OVNI, extraterrestre, parce que voilà, il y aurait de la nouvelle matière. De fait, c'est une question extrêmement ancienne. Parce que, au fond, et avec des liens très profonds avec la question religieuse, si vous cherchez le mot d'extraterrestre, vous découvrez qu'au XIXe siècle, on l'applique à la Sainte Vierge. C'est-à-dire que la question de qu'est-ce qui existe au-dessus de notre nature, qu'est-ce qui est surnaturel, qu'est-ce qui est en dehors de notre condition terrestre, c'est évidemment une question qui a traversé les religions, puisque, à travers cet exemple tout simple, c'était à propos de la description de ce triptyque, huissement s'utilise, jamais vierge ne fut, et plus extraterrestre et plus vivante. Bon, évidemment, aucun rapport avec des ovnis, mais on voit bien les possibles confusions ou les possibles débats, disputes, oppositions, bref, tout ce qui relève habituellement des rapports entre science et religion, vous les avez peut-être déjà abordés, peuvent d'emblée se trouver présents dans cette question de la vie extraterrestre et des êtres extraterrestres. En plus, il y a plein de choses. Vous voyez bien que la manière dont on traite aujourd'hui la question extraterrestre est bourrée de références religieuses. La manière dont nos contemporains abordent la vie extraterrestre, qu'ils l'acceptent ou pas, a des références religieuses quasi immédiates. Bon, là, simplement... une affiche de film et une image pieuse, enfin, même si elle est animée, je ne sais pas comment elle est animée, c'est extraordinaire. Voilà, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des références symboliques? Ben oui, on joue sur les mêmes symboles. Récemment, quelques mois est sorti le travail d'un sociologue du CNRS sur justement les ovnis, les témoignages de rencontres extraterrestres. Et il a dit clairement, il y a un rapprochement à faire en termes sociologiques entre les témoignages contemporains de gens qui... Alors là, c'est des petits descendants d'enfants, mais où un enfant explique que trois extraterrestres sont rentrés, bon, etc. Les récits d'apparition à des enfants du 19e siècle, ou encore avant, il y a des rapprochements qui peuvent se faire. Si je vous racontais, je ne fais pas ce que je viens de vous expliquer, mais certains nombre de récits des années 1950 où des enfants sont à la campagne et ce qu'ils vont finir par décrire comme des petits êtres, le début de l'histoire, c'est exactement la même chose qu'à la Salette ou à Lourdes. Parce que ça passe évidemment par des mêmes canaux, des mêmes modes d'expression pour dire des choses qui sont justement extraordinaires, surnaturelles. Et alors l'influence, les influences, quand je vous le dis comme ça, ça semble normal. Quand vous le dites à certaines personnes, ça les dérange. Bon. Mais pourtant, sociologiquement, ce rapprochement, il peut être fait. Ce qui permet certains d'aller plus loin dans le rapprochement entre le religieux et l'extraterrestre, de dire au fond, quand on a dans le récit biblique, donc dans la version soft, plutôt à gauche, la montée d'Élie, l'ascension d'Élie, il meurt, il est emporté au ciel sous le regard de son disciple Élisée, c'est vite fait de transformer ça en une soucoupe volante. Le char de feu avec les chevaux de feu sur lequel Élie monte, c'est une soucoupe volante, bien évidemment. Enfin, on vous dit bien évidemment. Et ça devient un espèce de jeu assez étrange, mais qu'on retrouve dans d'autres domaines. Je sais pas, vous avez parlé du créationnisme, je pense.
Très peu.
Très peu. Ouais. Bon, ouais. Ça vous dit quelque chose de créationnisme? Pas du tout. Créationnisme, aujourd'hui, c'est mouvement confessionnel, d'origine religieuse, qui s'oppose à M. Darwin en particulier, c'est pour ça que je me suis intéressé à Darwin, et Darwin, c'est l'ennemi public numéro un, et voire même aussi à l'idée d'évolution. Et tous les motifs sont bons pour montrer que ce que nous racontent aujourd'hui nos scientifiques, alors on n'est plus sur les exoplanètes, mais dans le domaine de l'évolution, est parfaitement faux. Parce que ça s'oppose à la doctrine religieuse que le croyant en question défend, qu'il s'agit, et c'est très souvent plutôt les religions du livre, donc le texte sacré, qu'il s'agisse de la Bible ou du Coran. Et de fait, on a ce même relation très étrange entre eux, ce qui est un discours, disons, teinté de science, et le texte. Là, en l'occurrence, on récupère un texte biblique pour pouvoir affirmer l'existence d'extraterrestres que la science n'a pas démontré pour l'instant. Mais on tire la couverture scripturaire à soi. Alors, par d'autres moments, on pourra aussi, au contraire, dire « au nom de la science, je refuse la science », au nom de la Bible ou du Coran, je refuse la science. Mais là, dans le domaine extraterrestre, c'est ce que vous entendez très souvent. Il y a des textes entiers, des bouquins entiers qui vous disent « mais de fait, les extraterrestres existent bel et bien, puisqu'on en a des preuves dans la Bible ». Donc un texte sacré, qui ne se trompe pas. Donc là, voilà, l'ascension d'Élie, c'est une soucoupe volante. L'Arche d'Alliance, eh bien, c'est une pile atomique qui a été pas inventée par ces pauvres Hébreux, qui étaient juste des gardiens de moutons, hein, mais par des extraterrestres qui leur ont apporté cette puissance-là. Bon. Et à partir de là, vous pouvez évidemment tout faire dire au texte sacré. Plus amusant, une de nos gloires journalistiques nationales, Jean-Claude Bourret, qui est grand défenseur des ovnis, lui aussi n'a pas peur de faire appel à la Bible. Je l'ai entendu il y a à peu près 2 ans, une conférence où il était annoncé, alors c'est pour ça que moi j'étais là, et on m'a expliqué, il allait parler de Dieu avant la création, c'était un titre très théologique. Alors, je me dis pourquoi pas, c'est un peu surprenant, mais il peut très bien avoir des compétences que je ne connais pas. La preuve, il y a un théologien au CNES, donc il peut y avoir peut-être un théologien dans les chaînes de radio. Et bon, au bout de 3 secondes, il est passé sur son sujet préféré, les ovnis. Et il a expliqué donc que l'une des preuves de l'existence des ovnis, elle se trouvait dans la Bible. Alors si vous avez quelques... Même dans l'iconographie, sans être un fervent, vous avez aussi dans une vision, cette fois-ci d'Ézéchiel, des roues, des mystérieuses roues que l'on représente d'habitude comme en haut à gauche, des roues qui peuvent se déplacer, une espèce de gyroscope, si vous voulez, qui peut se déplacer en avant, en arrière, et une roue qui possède des yeux. Alors, on ne sait pas ce qu'Ézéchiel avait fumé avant, hein, mais c'est bon, c'est des trans, etc. Bon. Mais dit Bourré, il n'est pas le seul à le dire, non, il ne faut pas mettre ces deux roues de manière octogonale, comme c'est représenté le plus souvent. Hein. Il faut les mettre l'une à l'intérieur de l'autre. Et si vous mettez des yeux autour, vous avez donc une soucoupe volante. Voilà. Bon. Alors, c'est pas mal, ça vous fait vendre des bouquins, cela dit, hein, parce que vous aurez la révélation, OVNI, etc. Avec un doux mélange entre religion et science, sachant que la science peut aussi provoquer et générer un discours anti-religieux au nom de cette découverte scientifique. Gilles Tarter, que vous avez à gauche, là, qui est dans un lieu extraordinaire que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, qui est un télescope qui a été creusé dans une colline en Amérique centrale. Donc vous imaginez la coupole du télescope, c'est un télescope qui reçoit des ondes, on ne pourrait pas la construire de manière autonome, on a simplement creusé la colline. Et elle est donc devant ce télescope, parce que dans ce télescope, elle tâche de repérer un message venu d'ailleurs, donc un message extraterrestre. C'est tout ce qu'on appelle le SETI, donc la Search of Extraterrestrial Intelligence. Et Jill Tarter est la papesse, pour lui donner ce titre-là ici, la papesse de SETI. Et pour elle, c'est un combat en partie. Alors, c'est une recherche scientifique, mais par ailleurs, un combat aussi contre l'obscurantisme religieux. Elle n'a pas peur de le dire. Elle n'en fait pas une croisade comme d'autres scientifiques peuvent le faire aujourd'hui. Je pense à Richard Dawkins. Mais on trouve dans ses propos assez régulièrement des choses en disant, bon, vivement qu'on trouve la vie extraterrestre, parce que ce jour-là, on va pouvoir enfin se débarrasser de toutes ces vieilles histoires religieuses qui nous encombrent, en particulier nous, les scientifiques. Et en astronomie, on connaît les déboires de l'astronomie avec cette Église catholique particulièrement obscurantiste. C'est aussi un peu le sujet, d'ailleurs, du roman de Carl Sagan et du film Contact. On retrouve des choses entre la question de la relation entre l'affirmation extraterrestre et l'usage de la vie extraterrestre, des recherches en termes de vie extraterrestre, comme argument contre la religion. Est-ce que les religions devraient vraiment avoir peur des extraterrestres? Un de mes amis... Alors, d'abord, un petit mot de Clark, parce que quand même, quand on parle spatial, on est obligé de parler d'Arthur Clark, hein, qui a quand même une production en termes de science-fiction spatiale assez étonnante, étant lui-même un ingénieur astronautique tout à fait compétent. C'est lui qui a inventé le concept d'orbite géostationnaire. Donc, il sait ce que c'est que le spatial. Et quand vous lisez ça... je pense qu'il était plutôt du côté scientifique. Et évidemment, ça fait réfléchir. Alors, qu'en est-il par rapport à... Sachant que la vérité, aujourd'hui, n'est pas assurée. On n'a toujours pas trouvé de vie extraterrestre. En tout cas, c'est la question que s'est posée, ou qu'a posée ce théologien luthérien, Ted Peters, qui est non seulement un ami des koalas, mais aussi un théologien qui est bien frotté de science, dans le domaine de l'évolution, dans le domaine mais aussi du spatial et de la... recherche de vie extraterrestre. Et Peters a fait un travail, une enquête. Donc je vous donnerai simplement deux planches de résultats. Donc plutôt dans... Bon, il travaille en Californie, donc Berkeley. Donc c'est dans ce domaine-là qu'il a interrogé donc un certain nombre de croyants. Donc confession chrétienne, juive, bouddhiste. Il n'a pas trouvé de musulmans. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. Je poserai la question la prochaine fois que je le verrai, parce que c'est un collègue. Et bon, la question, c'est au fond, est-ce que voilà, la vie découverte d'une vie extraterrestre, est-ce que ça va vous entraîner une crise? Et contrairement à ce qu'on entend souvent, finalement, dans ceux qu'il a interrogés, pas tant que ça. Bon, non. Il a rencontré des gens pas du tout convaincus et que ça soit une crise, et les chiffres vont dans ce sens-là. Alors... Évidemment, c'est un peu étonnant, parce que ça voudrait dire que la papesse de Séti se trompe, Donc même si on trouvait la vie extraterrestre, ce ne serait pas la fin des religions, et que les craintes des gens que je peux rencontrer, de cet ami qui a vraiment serait désarçonné s'il y avait de la vie, sont peut-être finalement enfin, plus minoritaires qu'on ne le croit. Ce qui est sûr, c'est que ce sujet-là, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces réponses sont pas, enfin, ne vont pas vers une crise et une peur, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui traverse les religions depuis très longtemps. C'est un sujet qui traverse l'interrogation philosophique depuis très longtemps. Juste quelques... Alors oui, j'ai rajouté ça parce que hier soir, parce que je vous ai parlé des créationnistes tout à l'heure. Donc juste un petit chiffre qui est assez intéressant. C'est... les Américains. Bon, c'est pas nous, hein, bien sûr, parce que nous, on est beaucoup plus intelligents qu'eux. Mais vous voyez, 54% des Américains pensent qu'il y a de la vie... des extraterrestres intelligents. Et je ne sais plus combien parmi ces 50% pensent qu'ils ont été emportés. Hein, ils ont été le sujet d'expériences pendant un certain temps. Et 42% des Américains ne croient pas en l'évolution. Donc seraient plutôt tentés par le créationnisme. Alors je ne sais pas comment ces deux chiffres se combinent. Mais bon, en tout cas... On peut donc étudier la question des relations entre science et religion, aussi bien en s'intéressant à la vie extraterrestre qu'au créationnisme. Donc on va en rester sur la vie extraterrestre. Je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en fonction du monde religieux dans lequel vous vous situez, la question de la vie extraterrestre va se poser de manière extrêmement différente. Ce sera ma seule allusion directe au bouddhisme, mais c'est vrai que dans le monde... bouddhiste où le temps et l'espace est illimité et dépasse notre perception immédiate. On est toujours dans des milliards de milliards de milliards, donc un peu plus, un peu moins, vous rajoutez quelques êtres vivants ou pas, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Je dirais, on a presque l'impression même au contraire. Donc pour ces croyants... C'est pas une question qui semble être tellement présente. En revanche, et je le disais tout à l'heure, pour des religions comme la religion chrétienne, comme l'islam, et moi, évidemment, de par mes connaissances, c'est plutôt dans le monde chrétien que je me suis penché, avec une théologie de la création très géocentrée, hein, enfin, la représentation qu'on a à gauche, elle correspond bien à ça, et que l'on a tenu pendant longtemps. La Terre qui est l'objet de toute l'attention d'un Dieu créateur, tout ce qui est autour, on l'ignore, et si jamais ça se manifeste, on l'écarte. Et en plus, sur cette Terre, évidemment, c'est l'être humain, le bon Dieu qui vient tenir la main d'Ève, et qui, enfin voilà, enfin, c'est tout à fait charmant cette vision-là, mais qui marque très très clairement l'anthropocentrisme chrétien. Donc cet anthropocentrisme chrétien, il va être interrogé par déjà tous ces philosophes qui se sont posés la question avant l'ère chrétienne. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, on a des traces du débat philosophique entre ceux qui disent « Eh bien, il y a plein d'autres mondes que le nôtre, et il y a donc des possibilités d'autres vies, d'autres espèces que la nôtre. » Exemple, le CIP. On ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour vous dresser là. Et puis, de l'autre côté, Aristote, Platon, qui disent pas du tout. Le monde est géocentré, la Terre est au centre, et il ne peut y avoir de vie que ici. Plusieurs mondes ne peuvent pas exister, répète Aristote. Et c'est la position qui va prévaloir. J'étais récemment avec des étudiants, et je leur disais, vous savez, on peut comprendre, faut pas... Enfin, aujourd'hui, on sourit parce qu'on a des télescopes, on a des sondes, on a tout le bazar. Mais quand on se lève et qu'on voit le soleil qui se lève et qui se couche, et les étoiles qui tournent autour, ça tourne autour, donc je suis au centre. On peut pas leur reprocher. Et ça fonctionne. En plus, ça permet de calculer le début ou la fin de la journée, même après un changement d'horaire, les saisons, les lunaisons. L'horloge, elle est astronomique, donc... Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Pourquoi ce ne serait pas la réalité puisque ça fonctionne? Et donc, cette position géocentrée, et à partir de là aussi excluant ce qu'on appelle la pluralité des mondes, il n'y a qu'un seul monde, plusieurs mondes ne peuvent pas exister, est une position qui a été très longtemps défendue. D'autant plus qu'elle rejoint, quand on rentre dans un monde chrétien, elle rejoint ce qu'on lit dans la Bible. Un Thomas d'Aquin va dire, bon, oui, bien sûr, on a cette position de Démocrite, hein, qui disait qu'il pouvait y avoir d'autres mondes et des rencontres fortuites d'atomes. Donc, rencontres fortuites d'atomes, c'est-à-dire aussi plein de mondes différents possibles. Mais ça ne tient pas. Dieu créateur, c'est pas compatible avec l'affirmation d'un Dieu créateur. C'est, en particulier, ce côté hasardeux, fortuit, qui était au cœur de l'affirmation d'une pluralité des mondes chez Démocrite ou chez Leucippe. Donc ça, c'est vraiment la position qui est à la fois héritée des Grecs et qui va traverser l'Occident qui va jusqu'à aujourd'hui, mais qui va être quand même prépondérante. Ça n'empêche qu'il y a quand même des gens qui se posent des questions, et des bonnes questions. Vous pourrez évoquer Étienne Tempier, évêque de Paris au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, qui est confronté à la guerre des écoles. La jeune Sorbonne, fondée au début du XIIIe, et au sein de laquelle il y a un combat entre les anciens et les modernes. Les anciens, les modernes, c'est tous les aristotéliciens qui débarquent avec leurs idées et qui nous disent, sur cette question-là, un seul monde, hein, puisque Aristote l'a dit. Et Tempier va condamner l'école aristotélicienne. Parce qu'à l'époque, on condamne, on ne dit pas... évidemment, anathème et compagnie. Hein. Et il condamne cette position dans son syllabus de 1277, en expliquant donc la non-impossibilité théologique de la pluralité des mondes. On ne peut pas, d'un point de vue théologique, dire qu'il n'y a qu'un seul monde. Et c'est intéressant, c'est que, d'un point de vue théologique, comment nous, les humains, nous interdirions à Dieu de créer d'autres mondes que nous ? Il ne dit pas que ça existe. Il ne baptise pas des extraterrestres, comme le proposent les jésuites du XXIe siècle. Mais il dit, en tout cas, c'est pas à nous, humains, de dire que Dieu n'a pas créé d'autres mondes. C'est impossible. L'impossibilité théologique d'une pluralité des mondes, ce qu'affirme Thomas d'Aquin, n'est pas possible. Allant même plus loin, un cardinal, Nicolas de Cuse, au XVe siècle, dans sa docte ignorance, laisse ouverte la possibilité d'autres mondes. La citation est un peu longue, mais il dit, voilà, il n'y a pas que sur cette terre-là qu'il y aurait des espèces. On peut très bien imaginer que dans d'autres régions du monde, il y ait des êtres, des habitants de nature différente, qui doivent tous, évidemment, leur origine à Dieu, qui est Dieu étant le seul centre, le centre, le pourtour de toutes les régions stellaires, une vision d'un Dieu englobant et en même temps central. Nicolas de Cuse, il a la chance d'avoir écrit ça au milieu du XVe siècle. D'abord, il est cardinal, très bien vu auprès du pape, au milieu du XVe siècle, avant le temps des grandes réformes et des contre-réformes. Parce que là, on va serrer les boulons. Donc, quand Giordano Bruno, à la fin du XVIe siècle, dit à peu près la même chose, et en ce vaste éther, nous joignons les mondes bout à bout et les étoiles aussi, comme il convient et comme l'ont compris tous ces âges qui ont cru en des mondes innombrables et infinis, il finit mal, il finit sur le bûcher, à Rome. Donc si vous allez à Rome, vous irez sur la place où il a sa statue, là où il nous nargue. Bon, ça, c'est les francs-maçons qui ont fait cette statue, évidemment, c'est pas le Vatican. Hein. Et depuis le 19e, tous les bons catholiques ont essayé de descendre la statue de Giordano Bruno, mais n'ont jamais réussi. Et Bruno, pour des raisons plus philosophiques que scientifiques, enfin, un début de raison scientifique, puisqu'il avait lu Copernic, milieu du XVIe siècle, mais il a été plus loin que Copernic, et pour des raisons aussi philosophiques, il a dit, mais pourquoi ne pas imaginer des mondes, un éther qui soit vaste et d'autres mondes que le nôtre en nombre infini. Donc il a fini sur le bûcher. Nicolas de Cuse, je vous dis, ne l'a pas fait parce que là, on est au moment de la contre-réforme et il s'agit de tenir les troupes. D'ailleurs, il aurait pu être aussi brûlé, enfin, il ne brûlait pas à l'époque, c'est pas celui que vous pensez, il y a quand même un thé au milieu de tout ça, mais par Mélenchon, Philippe, lui, protestant, s'insurge très clairement, il n'est pas le seul, enfin donc il y en a, ouais, lui aussi s'insurge, contre l'idée d'une pluralité des mondes, parce que Ce n'est plus une question de théologie de la création. C'est plus un Dieu créateur auquel on donne uniquement une seule terre à créer. Parce que nous sommes à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, que Galilée est dans le coin, qu'on commence à avoir des télescopes, que le monde commence à devenir illimité. Enfin, en tout cas, plus grand que ce qu'on imaginait. Donc on dit, bah, Dieu va créer plus grand. En revanche, la question, c'est, oui, mais s'il y a d'autres êtres que nous, d'autres êtres conscients, ça voudrait donc dire qu'ils sont possiblement pécheurs et que le Christ doit venir les sauver. Alors ça, ça devient trop compliqué à imaginer. Vous imaginez une passion et une Pâque sur chaque planète où il y a des êtres conscients. Donc ça, c'est ce que refuse Mélenchon et d'autres. Hein, il ne peut pas s'imaginer que le Christ est mort et ressuscité plus d'une fois. Or, ce serait le cas s'il y avait effectivement d'autres mondes. Alors, à moins de rentrer, alors ça, vous savez, les théologiens, la théologie, il n'y a pas que la docu-fiction, il y a aussi la théologie-fiction. C'est, parce que cette question-là va rester centrale jusqu'à aujourd'hui. Et va être le lieu en disant, ben, au fond, quelle option je prends? Est-ce que je prends l'option, le Christ s'incarne une fois, sauve une fois, donc il n'y a que nous, sur Terre, qui sommes pécheurs et avons besoin d'être sauvés, donc il n'y a pas d'autres êtres, à moins qu'ils soient sans péché. Alors, s'ils sont sans péché, ça donne quoi? Eh bien, ça donne, dira un théologien américain, que si, après la vague OVNI, enfin après 1947, dans la vague OVNI des années 50, si un OVNI se pose et qu'il y a des êtres qui en descendent, évidemment, comme ils, sont pas péché, ils n'ont pas péché, donc ils sont immortels. Donc, il ne faut même pas chercher à les tuer. Bon, on dirait, s'ils étaient menaçants, ça poserait des questions. Bref. Il y a un moment donné où le discours religieux se mélange un peu les pinceaux, il faut mieux faire attention. Donc vous voyez, une réaction de la part des théologiens après le XVIe siècle, par rapport à cette idée de la vie extraterrestre, des réactions négatives, plutôt négatives, même si c'est un... alors ça, c'est pas un théologien, mais c'est un ecclésiastique anglican qui écrit le premier roman de l'époque moderne d'un voyage sur la Lune. Godwin, l'homme sur la Lune, 1638, si ma mémoire est bonne, c'est le premier roman moderne de voyage sur la Lune. Il y en avait eu très peu auparavant. En revanche, Pierre Cassendi, qui est un Français, astronome, prélat catholique, ami de Galilée, il considère Galilée comme un ami, donc il est tout à fait dans la mouvance de l'astronomie moderne, il cite Copernic. Eh bien, dans un autre texte, où je ne l'ai pas mis, il se montre très hostile à l'idée d'une vie extraterrestre, pour des raisons théologiques. Donc on voit comment, dans un parcours personnel, celui d'un astronome reconnu et reconnu dans le milieu scientifique, eh bien, on va jusqu'en disant, voilà, finalement, une théologie de la création dans un monde qui est de plus en plus grand, pourquoi pas, au contraire, ça offre à Dieu une capacité créatrice encore plus grande, mais on s'arrête à un moment donné. On s'arrête au moment où il faut franchir le pas en disant « Oui, mais quand ça s'intéresse à l'homme, là, on rentre sur une théologie particulière et on change d'attitude à l'égard des sciences et brutalement, les sciences deviennent dangereuses. » Ce que je vous décris là, dans l'exemple de Pierre Cassendi, existe aussi si vous ouvrez un jour, mais vous n'aurez pas le temps et vous avez bien d'autres choses à faire, le catéchisme de l'Église catholique de 1992. Vous voyez qu'en termes de par rapport au rapport à la science, tant que vous êtes dans une théologie de la création du monde, de la nature, etc., c'est une théologie qui admet tout à fait la question de l'évolution. Elle met très clairement en avant. La création est une œuvre en chemin, le terme est in via, on fait en poste du latin pour que ça soit pas en chemin, donc on est dans un monde qui évolue. Donc là, on admet, le catéchisme admet parfaitement l'idée d'évolution, la réalité des fossiles, etc., etc. Et dès qu'on passe à l'article suivant, au chapitre suivant, à la théologie de l'être humain, une anthropothéologie ou une théologie anthropologique, alors là, on revient à une vision beaucoup plus fixiste, pour des raisons qu'on peut comprendre, et on peut en discuter si vous voulez tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce, dans la lecture, il y a une espèce de rupture, qui n'est pas totalement pas suffisamment justifié dans le texte, j'allais dire. Bon, après, on peut se dire, peut-être qu'on était allé trop loin avant aussi. Enfin, il y a une question d'équilibre dans les discours. Cassendi en est un exemple avec la vie extraterrestre. Je prends l'astronomie moderne, je lui fais confiance, même je m'engage comme scientifique, mais je bute sur la question de la vie extraterrestre pour des raisons théologiques. Newton, lui, qui est un théologien, comme tout le monde le sait, c'est un très grand scientifique, mais il a beaucoup écrit plutôt dans le domaine de la métaphysique. Donc, pour lui, il est en revanche très clair qu'il y a d'autres mondes que les nôtres, et chaque étoile fixe, dit-il, est le centre d'un système semblable au nôtre. Donc, dans une conception, en même temps, tout à fait théologique, d'un seul et même être avec une majuscule qui serait le créateur ou le grand architecte. Voilà, un autre exemple, Benjamin Franklin en passant. Alors, si je vous cite Thomas Paine, c'est que lui va utiliser, un peu à la manière de la papesse du SETI, mais avant l'heure, comme d'autres pour l'utiliser, va utiliser le développement des sciences comme argument contre la religion. En disant, et de manière extrêmement judicieuse d'ailleurs, c'est tout à fait pertinent, croire que Dieu a créé une pluralité des mondes au moins aussi nombreux que ce que nous appelons des étoiles, cela rend le système de foi chrétien immédiatement petit et ridicule. Il porte évidemment sa pointe à l'endroit précis, c'est-à-dire que tout ça, toutes ces étoiles qu'au XVIIIe siècle on continue à découvrir et qu'on va ne cesser de découvrir encore jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui on rajoute encore des exoplanètes, tout ça uniquement pour une bande de terriens sur cette petite planète et pour quelques millions d'années. Ça paraît évidemment un gaspillage monstrueux et qui peut devenir enfin, le qualificatif de ridicule et qu'utilise Paine comme argument anti-chrétien. Cet argument-là, c'est évidemment celui aussi de Gilles Tarter que je vous citais tout à l'heure et d'autres. Qu'il faut effectivement, dont on ne peut pas non plus nier la pertinence de l'attaque. Ce professeur, parce que lui est bien professeur d'Oxford, je crois, et en même temps ecclésiastique, est très intéressant parce que William Whewell, donc là en 1853, dans son ouvrage La pluralité des mondes, dit très bien la Terre est le lieu du grand drame, de la pitié du Dieu et du salut de l'homme. Donc, vous voyez, argument théologique christocentrique, donc uniquement de la vie sur Terre. Mais auparavant, il avait la position différente, enfin, complètement opposée. Et quand on... Alors, je respecte, évidemment, l'évolution de quelqu'un, parce que, par ailleurs, un type tout à fait brillant. Mais ce qui est parfois un peu surprenant, c'est de voir que la procédure ou les processus qu'il utilise sont les mêmes, avec des conclusions différentes, mais le jeu que l'on peut faire, un jeu dangereux, donc, entre les écritures, la lecture de l'écriture, l'exégèse, nous sommes en milieu du XIXe siècle, donc en plus d'un milieu anglican, l'exégèse est plus développée que dans le milieu catholique, par exemple. Le jeu avec l'exégèse et le jeu avec les sciences est un jeu qui peut être quand même... Alors, je ne dis pas qu'il est dangereux, mais quand on voit que la même personne vire finalement sa cutie en cours de route... Bon, peut-être qu'il y a un certain nombre de prudences à mettre quand on veut rapprocher ces domaines. Et ça, c'est évidemment valable, pour mathématiques extraterrestres, mais plus largement dans tous les rapports entre science et religion. Dans cette période de fin du 19e, c'est vraiment plus par anecdotique, il y a la grande affaire des canaux de Mars, qui donne aussi du grain à moudre à ce débat. Parce que, ce que je vous fais déjà peut-être trop long, mais y a l'histoire extrêmement riche. Enfin, vous voyez, il y a des monographies entières qui ont été faites. Quand je vous cite un auteur, en Angleterre, c'est des dizaines d'auteurs qui, comme Whewell, travaillent sur la question. Et en plus, à cette époque-là, donc, il y a l'affaire des canaux de Mars. Vous savez, ce Percival Lowell, astronome américain, extrêmement dynamique, en plus, les moyens, des télescopes, etc., Falstaff, etc., bon... qui s'obstine à voir des canaux artificiels sur Mars. On sait bien qu'ils n'existent pas, mais je dirais quand la foi touche la science, enfin la foi du scientifique, c'est pas du tout pour des questions croyantes, on arrive à voir des choses comme le croyant peut voir parfois des choses qui n'existent pas dans le même de la foi. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a une foi, il peut y avoir une foi scientifique. Hein, c'est une fois encore, je constate. En tout cas, ça a été une sacrée leçon pour les scientifiques, hein, en termes de jusqu'où un discours scientifique peut-il aller lorsque on arrive à des convictions qui relèvent de la religion, enfin, d'un dogmatisme. Le terme dogmatisme vient du monde religieux, mais peut-être aussi appliqué au monde scientifique. Et Lowell est un cas d'école, et qui est très travaillé pour ça, parce que comment, dans des conditions très particulières, à la fois d'observation, c'était intéressant, parce que Mars, on peut bien l'observer avec une certaine régularité. Donc, chaque fois que Mars se rapprochait de la Terre, c'était reparti pour un tour. Et donc, Lowell en profitait. Donc, il y avait une espèce aussi de campagne régulière en faveur des canaux martiens. Avec un grand saut dans le temps, mais savoir aussi que, avec la naissance de toute la psychologie et de ce monde-là, des sciences de la conscience, on s'est aussi intéressé à ces phénomènes. Quelqu'un comme Carl Jung a écrit un livre extrêmement intéressant, Un mythe moderne, dans lequel il décortique avec ses outils à lui ces apparitions et tous ces témoignages. Et on voit bien que là, on est... Pour ça que je l'ai mis, c'est pas tellement pour le travail de Jung, mais c'est aussi l'idée de mythe. Pourquoi ces questions peuvent... Y a-t-il un rapport parfois conflictuel entre le monde extraterrestre et le monde religieux? C'est que nous sommes aussi dans un combat entre des mythes. Des mythes religieux portés par des textes sacrés qui présentent le monde d'une certaine manière, qui nous présentent aussi nous dans une certaine manière. Enfin, tout ce que le mythe, ça vous le savez, le rôle que les mythes jouent dans nos cultures. Et puis d'autre côté, ce que Jung appelle un mythe moderne, qui prend une place importante, qui peut devenir un opposant ou un concurrent du mythe religieux. D'où les combats qu'il peut y avoir. Ou au contraire, utiliser des choses pour s'appuyer sur la Bible et les mythes bibliques pour pouvoir aussi construire son propre mythe. Donc c'est un domaine qui est assez fascinant quand on commence à l'analyser, parce qu'on y trouve tout en termes de lien entre science et religion. Ici, je ne pouvais pas, mais vous en faites pas, il fait aussi partie des discours, citer Pierre Teilhard de Chardin, donc avec une salle Teilhard de Chardin juste derrière nous, j'ai presque naturellement posé la question. Voilà un scientifique, un jésuite, qui travaille dans la première moitié du XXe siècle, donc, je ne dis pas qu'il s'est passionné pour les ovnis à partir de 1947, mais qui s'intéresse à la science, qui voit le développement aussi des sciences. Vous voyez, le Big Bang, c'est les années 20 et 30, donc aussi la taille de l'univers qui devient de plus en plus grande, et évidemment dans la vision, synthétique, en tout cas la synthèse que Teilhard essaye de faire en termes de vision chrétienne, de vision théologique chrétienne, il ne pouvait pas échapper à la question de la vie extraterrestre. D'autant plus que lui, à sa manière, répond à la critique de Thomas Paine quand il disait la vision chrétienne est ridiculement petite. Et c'est le grand souci de Teilhard. Si vous demandiez ici aux responsables, aux spécialistes de Teilhard de Chardin, il y en a quelques-uns dans cette maison, ils vous diraient l'un des soucis majeurs de Pierre Teilhard de Chardin, c'est, comme dans cette citation-là, que le Christ ne soit pas plus petit que le cosmos. Au contraire, que le Christ soit toujours plus grand que ce cosmos qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de se peupler au moins d'étoiles, bientôt de planètes, et pourquoi pas de vie. Donc c'est le moment ou jamais d'élargir la vision chrétienne. Donc le propos de Teilhard, le propos théologique de Teilhard, et le propos aussi, le combat de Teilhard, a sans cesse été de dire, mais... attention de ne pas réduire notre vision chrétienne uniquement à ce qu'il va appeler la face humaine. Le Christ humain ne serait alors qu'une face du Christ cosmique. C'est ça sa position. Ce que nous en connaissons par la tradition, de ce point de vue-là, il n'est pas du tout traditionaliste, mais il connaît bien cette tradition. Il est un fils de la tradition chrétienne. Mais, dit-il, quand on ouvre les yeux sur la réalité cosmique, la réalité biologique, donc la réalité cosmique de l'espace et du temps, puisque lui est géologue, donc les échelles de temps, il les connaît aussi, mais là, il faut absolument ouvrir ces échelles et ne pas, en théologie, de dire qu'il n'y a que la dimension, il n'y a que le Christ humain. Il ne faut surtout pas que le Christ soit plus petit que le monde. Et alors... Il parle même de manifestation, vous avez le terme polymorphe du Christ. Donc, il y a d'autres Christ ailleurs, évidemment, puisque ce n'est que la face humaine ou terrestre dont nous avons le témoignage sur Terre. Donc il y a d'autres formes, il y a d'autres faces ailleurs. Bon, il n'a pas été brûlé pour ça, parce que depuis longtemps qu'il était condamné au silence, puisqu'il avait été condamné au silence dès les années 20, il a écrit ce texte. Alors celui-ci, je ne sais plus, peut-être qu'il est, il date à peu près de ces années-là, mais il l'a répété à quelques reprises. Bon, mais de manière générale, il n'était pas tout à fait dans l'air du temps, enfin de ce temps qui a précédé Vatican II. Aujourd'hui, il était jamais cité dans Vatican II, mais il y a des passages qui sentent beaucoup Teilhard. Et puis aujourd'hui, les papes n'ont plus peur de citer Teilhard. Donc, bon, quand en plus on est jésuite, on peut peut-être citer Teilhard, mais c'est plutôt bien. Au fond, et c'est là-dessus que je voudrais terminer mon petit propos, ce qui est derrière ça, c'est toujours la question de l'autre. Je vous le disais tout à l'heure. Depuis toujours, ça fait la sorte quand même. C'est ma préférée, celle de droite. Évidemment, c'est un montage. Hein. Ce serait trop beau. Ça interroge beaucoup les gens. Vous êtes venu dans mon bureau, je crois, la première fois. Ouais. Donc elle est dans mon bureau. Alors je vois toujours les yeux de mes visiteurs. Je peux vraiment les regarder, mais c'est...
Ah.
C'est l'icône, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Mais c'est, bon, plus sérieusement, c'est la question de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai coutume de dire que cette question-là, elle suit notre humanité comme son ombre. Nos plus lointains parents se demandaient qui étaient les êtres qui étaient dans la caverne d'à côté, ou qui est-ce qu'il y avait des êtres de l'autre côté de la vallée, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté des mers, et toute l'histoire de l'exploration, d'abord de la grande marche de l'humanité, enfin des différentes humanités au cours de leur histoire, à travers cette planète, enfin autour de cette planète, dans la rencontre d'autres qui pouvaient être issus de la même souche quelque part. Bon, les rencontres entre Sapiens et Néandertal, et puis plus tard des rencontres entre Sapiens et Sapiens, mais des Sapiens qui avaient été marchés un peu plus vite que les autres. Tout ça, c'est quelque chose qui nous habite, je crois, très profondément. Ça habite la philosophie, ça habite notre culture, ça habite ce qui est le plus beau et parfois aussi ce qui est le plus malheureux de l'histoire. Donc la question de l'extraterrestre n'est qu'une des multiples avatars de cette question de l'autre. Mais c'est vrai que dans l'histoire, évidemment, de l'humanité, dans cette marche, cette odyssée terrestre que nous connaissons, quand on a fait le tour, il est où l'autre ? Puisqu'on en a fait le tour, on l'a évidemment... On a exporté cette question sur les planètes. Alors, je vous ai dit, Nicolas de Cuse, pour lui, il n'y avait pas de problème. Il y a des habitants sur la Lune, ce sont les lunatiques. Il y a des habitants dans le Soleil, ce sont les gens solaires. Enfin bon, avec tout ce mélange d'astrologie qui, à l'époque, n'a aucun problème. Il y a des astrologues à la cour du pape à Rome, donc des contemporains de Nicolas de Cuse. Mais jusqu'encore récemment, à la fin du XIXe siècle, l'Académie des sciences, presque voisine, lance un concours dont le prix sera donc donné à celui qui entrera en communication avec un extraterrestre. Mais la Lune est mise hors, et Mars, je crois même, sont mis hors concours parce que c'est évident qu'il y a des habitants sur Mars et sur la Lune, et donc c'est trop facile d'entrer en contact avec eux. Donc voilà. Alors les autres, si j'ai fait aussi ça, ça peut être aussi les mondes souterrains. Hein, je crois qu'il y a aussi, je sais pas si j'ai lu récemment un dicton latin de droit avec l'idée on va des enfers jusqu'au ciel. Donc tout ça, je vous ai déjà dit tout à l'heure. Dans la tradition chrétienne, évidemment, l'autre c'est l'ange. Ça peut être l'ange aussi avec tous ces rapports et tous ces rapprochements, je vous disais tout à l'heure, les apparitions d'hier, utilisent. Alors, je ne fais pas de confusion, je ne vous dis pas que les anges sont des extraterrestres ou que les extraterrestres sont des anges, mais c'est comment nous, les humains, exprimons cela. Comment nous arrivons à rendre compte de ce qui, pour nous, sort de l'ordinaire, est extraordinaire, relève d'un monde métaphysique ou d'un monde surnaturel. Et ce faisant, c'est en fait nous-mêmes que nous allons à la rencontre de nous-mêmes. Le rapprochement est facile, mais quand on veut se représenter, comme il y a une quarantaine d'années sur les sondes qu'on a envoyées à l'époque, dans les années 70, à l'exploration du système solaire, et qu'on mettait pour se représenter, vous retrouvez le couple mythique d'Adam et Ève, même si Alors, on a enlevé l'arbre, évidemment, le serpent et les feuilles, mais quand même, on reste discret et prudent et prude. Et puis, derrière aussi, ce que je trouve très intéressant à travailler et qui serait à travailler, c'est tous les messages que nous leur envoyons. Alors, au monde du ciel, voilà le télescope dont je vous parlais tout à l'heure, à Recibo, là, au milieu duquel se trouvait la papesse. Bon, ben, ce télescope, c'est... Et les messages qu'on envoie, ça, c'est le logo d'une association qui s'intéresse à envoyer des messages. Bon, ben, hier, on envoyait des messages vers le ciel, c'est les Grégoriens, et c'est un manuscrit de la cathédrale de Chartres, et une rosace de Chartres. Voilà. Une fois encore, c'est pas de la confusion. Je dis pas que c'est... il faut pas le confondre, mais c'est le même élan qui nous porte, je crois. C'est parfois les mêmes mots que nous utilisons, les mêmes ressorts linguistiques, les mêmes peurs, les mêmes espoirs de part et d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'attends vos questions.